BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Dernière heure de BFM Bourse, on est ensemble en direct jusqu'à 18h avec une bourse de Paris qui est en pleine forme puisqu'après avoir gagné quasiment 1% hier, elle reprend 0,8% aujourd'hui. Alors, Haute-Kersulec, on n'a pas de record à la bourse de Paris sur le CAC 40, mais si on regarde l'autre indice, le CAC 40 GR qui prend en compte les dividendes, eh bien là, on est tout simplement sur des plus hauts historiques.
Oui, c'est ça, on était monté au-dessus de 25 000 points pour ce CAC dividende réinvesti. Pour le CAC 40 normal, on n'est pas loin, on est à moins d'une 1%, on est à 1,3% et plus d'une centaine de points de notre record des 8 253 points atteints en mars. Mais on continue d'avancer, en tout cas cette semaine, même s'il y a peu de volume, même s'il y a peu d'opérateurs, on monte 0,8% aujourd'hui et tient la valeur la plus forte du CAC 40 cet après-midi. Midi, c'est AXA, hausse de 2,2% après une annonce qui fait plaisir au marché, c'est que le rachat d'actions va être encore augmenté de 200 millions. On est à 33,35€ pour la valeur AXA.
Du côté des autres valeurs, on a Schneider Electric également qui est sur un plus haut historique grâce à une hausse de plus de 2%. Et puis hors CAC 40, la star du jour, c'est Alstom, une valeur qui gagne plus de 7% aujourd'hui, au-delà des 16,96€ même après la publication des résultats et puis un plan de refinancement. Faut-il revenir sur cette valeur? On en parlera après 17h30. On parlera également de BMW qui perd un peu plus de 3% à Francfort après avoir publié ses résultats, quand Ruby de son côté hors CAC 40 à Paris est pénalisé après la publication de ses résultats. Quatrième séance dans le vert à la Bourse de Paris. Jusqu'où peut aller cette tendance? Est-ce que nos investisseurs, est-ce que nos intervenants sont à l'aise avec les niveaux de marché? On continuera de poser la question jusqu'à 18h. Et puis tout de suite, on va revenir sur les baisses de taux qui, ça y est, commencent à s'amorcer en Europe avec la Suède qui a annoncé aujourd'hui revoir à la baisse son taux directeur. C'est parti, c'est BFM Bourse. On est ensemble jusqu'à 18h.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Avec Vincent Chéniaud qui nous accompagne aujourd'hui, directeur de la recherche de Generali Investment. Bonjour Vincent Chéniaud.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en ce 8 mai, en ce jour férié, je vous en suis très reconnaissant. Heureusement, on a beaucoup de sujets à aborder, hein, puisque même si c'est une journée, un jour férié à la Bourse de Paris, eh bien, je le disais, il y a pas mal de sociétés qui ont dévoilé leurs résultats, on a pas mal de statistiques également qui ont été dévoilées aux États-Unis, et puis aussi, la Banque centrale de Suède qui a annoncé baisser ses taux. Alors ce n'est pas la banque centrale qui est regardée par tous les opérateurs, mais bout à bout, on a pas mal de banques centrales après la Suisse, après la Suède, qui commencent à amorcer des baisses de taux.
Oui, en effet. Donc la Suisse et la Suède sont les premiers à tirer parmi les grandes banques centrales. Et ça laisse présager d'un mouvement plus généralisé à mesure où l'inflation baisse. Alors, c'est vrai que la Suède est dans un cas un peu particulier, dans la mesure où ils ont une croissance négative du PIB sur les 4 derniers trimestres. Donc, c'est une situation qui est pire encore que ce qu'a connu la zone euro. D'où cette première baisse de taux à 3,75%. Mais effectivement, ça laisse présager d'un mouvement plus global. Et notamment, on attend avec une quasi-certitude, une baisse de taux de la BCE lors du meeting de juin, à moins évidemment que le chiffre d'inflation des prix à la consommation pour le mois de mai soit catastrophique. Mais autrement, il semble que la première baisse de taux de la BCE soit promise pour le mois de juin.
Avec également la Banque d'Angleterre qui va se réunir demain. On se souvient qu'il y a quelques jours, le 1er mai même, c'était la fête qui s'était réunie. Donc là, on est vraiment dans une phase de communication intense des banques centrales. Qui voit l'inflation reculer en Europe. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. L'inflation est toujours collante, au point que les investisseurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les scénarios de baisse de taux, avec un consensus qui a quand même du mal à se former.
Oui, en effet. Alors, le marché a révisé de façon très agressive ses anticipations de baisse de taux aux États-Unis, puisque au tournant de l'année, le marché anticipait quasiment 7 baisses de taux de la Fed cette année. Aujourd'hui, il anticipe moins de 2 baisses. Et en particulier, la majorité des investisseurs pensent maintenant que la première baisse ne viendra qu'en septembre, voire pour certains, en décembre. Alors, c'est vrai que septembre, pour nous, est le scénario le plus probable. Mais je pense qu'il y a encore une fenêtre de tir sur juillet, sachant que le meeting de juillet est le 31 juillet, donc tout à la fin du mois. et que d'ici là, on aura trois batteries de chiffres d'inflation et qui, si ces chiffres d'inflation s'avéraient plus faible, pourrait ouvrir la porte à des baisses de taux de la Fed. Donc, plus de patience côté américain, mais il nous semble que beaucoup de mauvaises nouvelles inflationnistes sont déjà dans les prix et peut-être que le marché est devenu trop pessimiste sur la Fed.
Ah oui, carrément, pessimiste. Parce que c'est vrai que le marché, je disais en introduction, le CAC 40 dividendes réinvestis est sur des plus hauts historiques. À Wall Street également, le S&P 500 est toujours au-delà des 5000 points. Le marché est solide quand même.
Oui, alors... Le marché a résisté de façon assez formidable, en effet, à la révision des anticipations sur les banques centrales. Donc plus pessimiste sur les chances de baisse de taux, mais plus optimiste globalement sur les profits, après effectivement une saison de résultats du premier trimestre qui est quand même globalement très favorable, avec également cette idée qu'on a une reprise globale qui se profile. Enfin, au premier trimestre, la croissance en zone euro a été positive, à plus 0,3% en variation trimestrielle. On a la Chine également qui a surpris à la hausse sur le premier trimestre, une croissance de 5,3% en glissement annuel. Et on a des signaux selon lesquels le secteur manufacturier enfin sort de l'ornière. Donc le marché a intégré un certain nombre de bonnes nouvelles sur la croissance globale qui a permis au marché actions de très bien résister, naviguer cette période de révision des anticipations sur les banques centrales.
Avec notamment 85% des sociétés du S&P qui ont dévoilé leurs résultats. Et alors c'est FactSet qui nous donne ce chiffre, 80% des résultats sont au-dessus des attentes.
Oui, des surprises très positives. Les profits sont en hausse en variation annuelle et nettement mieux qu'attendu aux États-Unis, hein, environ 10 points de plus que le consensus, une variation positive en glissement annuel, évidemment tirée en partie par le secteur de la technologie qui est prédominant aux États-Unis, mais globalement une saison qui a été très forte aux États-Unis. Un peu moins forte en Europe, même si là encore, les surprises sont plutôt positives, de l'ordre de 5 points. Mais là, en Europe, on reste sur des variations négatives de profits en glissement annuel, avec notamment des secteurs cycliques qui, malgré la reprise au premier trimestre que j'ai évoqué, les secteurs cycliques qui restent plutôt à la traîne. Donc, les matières premières, évidemment, mais les matériaux, les valeurs industrielles, la consommation discrétionnaire, ce sont des secteurs qui sont un peu à la traîne. Donc, une saison correcte en Europe, mais moins brillante qu'aux États-Unis.
Vincent Chéniaud, vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. Quand vous regardez vos indicateurs, quelle est la suite désormais? Est-ce que les marges des entreprises continuent de se maintenir? Sachant qu'on en parlait, d'ailleurs, je vous invite tous à réécouter John Plassard tout à l'heure à 15h30 avec une épargne Covid aux États-Unis qui a fondu, en fait. C'est-à-dire que le consommateur américain qui était très fort, maintenant, il n'a plus d'épargne. Alors certes, il a sa carte de crédit, mais jusqu'où va tenir cette consommation aux États-Unis?
Alors, l'économie américaine a fait preuve d'une résistance formidable après cette séquence de hausse de taux directeurs très, très violente qu'on a connue sur 18 mois. Et donc, l'économie américaine a surpris le consensus à la hausse. Elle reste solide, mais c'est vrai qu'on voit quand même des signes un peu de fatigue aux États-Unis. Quand bien même, je disais qu'au niveau global, on voit des signes d'amélioration. Aux États-Unis, on voit quand même quelques signes de tassement, notamment sur le marché de l'emploi. Vous parlez de la consommation, évidemment, la vigueur dans l'emploi est un élément très très important. Si vous regardez les enquêtes des consommateurs, notamment sur la facilité pour trouver un emploi, les choses commencent à se dégrader. Si vous regardez aussi le taux de démission, le taux de démission est en train de baisser, ce qui suggère également que le marché de l'emploi devient un peu moins vigoureux. On a des créations d'emplois aussi, le fameux rapport JOLTS, qui devient un peu moins solide. Donc, c'est vrai que on a là des signaux qui deviennent un peu moins vigoureux aux États-Unis. On a également les petites entreprises qui donnent des signes de faiblesse par opposition aux grandes entreprises. On a parlé des profits du S&P, mais si on regarde la situation des petites entreprises, elle est assez différente. Donc, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a quand même des signaux de tassement.
Et sur le front de l'emploi, c'est vrai que le taux de chômage reste toujours sous les 4%. On verra demain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage comment ça se passe place en ce début du mois de mai. Mais du côté des entreprises, il y a quand même un gros travail qui a été fait sur les coûts. Hein, dans toutes les publications, les entreprises communiquent sur les réductions de coûts. Comment aujourd'hui elles arrivent à redresser leurs marges, à réduire les coûts sans avoir d'impact sur l'emploi aux États-Unis? C'est quand même assez fort.
Ça devient compliqué, je dirais. Bien évidemment, on a eu pendant la période Covid ce qu'on a appelé la greedflation. Donc les entreprises ont profité de cet environnement inflationniste pour monter les prix et faire gonfler également les marges. Là, on voit que, donc clairement, cette stratégie de marge a contribué au processus, a accentué le processus inflationniste. Aujourd'hui, on voit que ces marges ne progressent plus. Et donc, il y a là encore une certaine fatigue. Et je pense que précisément, parce que si on regarde par exemple l'enquête des prix à la production, le PPI, qui nous donne une indication sur les marges, on voit effectivement une stabilisation. Donc les marges ne baissent pas, mais elles ont arrêté de grimper. Et ça pourrait impliquer des entreprises qui commencent à serrer la vis sur l'emploi, et ça pourrait nous conduire effectivement à des créations d'emplois beaucoup plus faibles dans les mois qui viennent. C'est ce que nous attendons en effet.
En tout cas, trimestre après trimestre, elles arrivent à surprendre positivement. Hein. Elles ne donnent pas la recette miracle, la façon dont elles y arrivent, mais à chaque fois, ça tient.
Encore une fois, les marges sont très élevées d'un point de vue historique. Elles restent très élevées, mais elles ne progressent plus. Alors, on a eu des plans d'économie. On a eu également, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui permet également d'opérer des gains de productivité. On a vu un fort rebond de la productivité qui participe également à ce phénomène de marge élevée. En l'occurrence, sur la productivité, on voit également plutôt un tassement. On a vu plutôt un tassement au premier trimestre, ce qui confirme également ce sentiment que les marges sont en train de plafonner aux États-Unis.
Vous restez avec nous, Vincent Chéniaud. Dans un instant, on va parler de différents indicateurs que vous avez repérés. Mais juste avant, on a Aude Kersulet qui nous attend à la Bourse de Paris, parce que dans précisément 19 minutes, ça sera le fixing avec Aude, un CAC 40 qui, après avoir gagné 1% hier, continue de plus belle avec une belle variation aujourd'hui.
Oui, on devrait être un tout petit peu moins élevé qu'hier en termes de progression, mais plus 0,8% tout de même. Les 8140 points avec pas de belle progression quand même pour le CAC 40. Certaines valeurs, Schneider Electric qui a son plus haut historique à 226 €, qui progresse de 2,2% devant Veolia, AXA également. Mais c'est hors CAC 40 que ça se passe particulièrement bien pour Alstom après sa publication annuelle ce matin. Alors même si on a publié un résultat net dans le rouge et puis on a annoncé une augmentation de capital. Finalement, tout ça a été attendu. Et la valeur rebondit sur son second semestre, qui est quand même passé beaucoup mieux que prévu. Et puis, des perspectives aussi qui sont meilleures qu'anticipées. Donc, plus 8,4% pour Alstom à 16,97 €. Et puis, si on va aussi du côté de l'Allemagne, là, on a une valeur qui progresse énormément. C'est Siemens Energy. Pourtant, elle avait quand même pas mal déçu les investisseurs ces derniers trimestres. Et bien là, on a de bons résultats. On a aussi un remaniement de la division éolienne. Siemens Gamesa qui a été plusieurs fois en perte. La valeur prend 10% donc à Francfort.
Merci beaucoup, Aude Kersulet. On vous retrouve dans un peu moins de 20 minutes pour le fixing à la Bourse de Paris et donc une nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 à 8140 points, quand du côté de Wall Street, c'est beaucoup plus hésitant. Vincent Chéniaud qui est donc avec nous, directeur de la recherche de Generali Investment, avec forcément ce qui porte également les marchés, c'est la détente du marché obligataire. Quand vous regardez la référence, le 10 ans américain, il était à 4,7% il y a une dizaine de jours. Là, il redescend à 4,5%. Il a perdu une vingtaine de points de base. Forcément, ça explique en bonne partie, en plus des résultats d'entreprise, la bonne tenue des marchés actions.
Absolument. Alors, le marché obligataire et les marchés dans leur ensemble ont très bien réagi, notamment à la réunion de la Fed la semaine passée. Le marché était assez inquiet sur un durcissement de ton de Powell, qui en réalité ne s'est pas produit. Powell a dit, certes, il va falloir être patient pour que l'inflation revienne vers notre objectif, mais il a clairement confirmé que le biais était à la baisse des taux directeurs et non pas à la hausse des taux directeurs, malgré les déceptions qu'on a connues sur le premier trimestre sur l'inflation. Et donc le marché a été vraiment assez rassuré par cette tonalité. Et en effet, les taux longs se sont détendus d'une vingtaine de points de base, comme vous dites. Je pense que là, le potentiel persiste. Je pense qu'en effet, autour de 4,70 sur les taux longs américains, on a peut-être touché un pic et on devrait connaître une détente future, notamment parce que, comme je l'ai dit, le marché a intégré beaucoup de mauvaises nouvelles sur l'inflation, donc une inflation qui a été collante, qui a été trop élevée. Je pense que le marché a intégré beaucoup de mauvaises nouvelles au premier trimestre. On a des signaux qui nous laissent dire que l'inflation va finalement se détendre aux États-Unis, si on regarde notamment la composante loyer, si on regarde également la dynamique des marges, comme je l'ai dit, si on regarde les salaires qui sont en train de se calmer, avec notamment la baisse du taux de démission, en général c'est un signal précurseur sur les salaires. Donc on devrait avoir cette baisse de l'inflation qui va ouvrir la porte à des baisses de taux aux États-Unis et qui devrait opérer, faciliter un repli des taux longs, surtout si l'économie américaine commence à se tasser, comme je l'ai dit. Donc sur les taux longs américains, il nous semble qu'en effet on a peut-être connu le pic et on est dans une phase de détente qui va se poursuivre.
Et ça, c'est bon pour les marchés actions, avec notamment des valorisations qui se détendent, hein, forcément pour les entreprises de croissance. Il y a également une statistique intéressante que vous avez remarquée, c'est la confiance entre les patrons de grandes entreprises et puis les patrons des PME aux États-Unis, oui, avec une confiance qui a été mesurée. Quelle est la différence, le potentiel entre ces deux statistiques ?
Alors, il y a une certaine dissonance qui, en effet, est vraiment très inhabituelle. Les grandes entreprises sont plutôt très confiantes, et c'est confirmé par ce dont on a discuté, les marges, les profits très élevés, les bons résultats. Et de l'autre, les PME qui sont plutôt assez pessimistes. Et ça s'est traduit d'ailleurs par une certaine déception au niveau des small caps, des marchés small cap, qui n'ont pas bénéficié de l'embellie qu'on a eue sur les valeurs cycliques au tournant de l'année et au premier trimestre. Ça s'explique en partie par le fait que les petites entreprises sont plus sensibles au niveau taux. On a parlé de taux longs notamment très élevés. On a parlé d'une Fed qui ne baissait pas aussi vite que prévu. Les petites entreprises sont plus exposées à ces taux élevés et à ce risque de refinancement. Donc ça, je pense que ça a beaucoup pesé sur la confiance et sur la performance plutôt décevante des mid-cap. Mais du coup, si la Fed baisse ses taux cet été ou à la fin de l'été et qu'on a ce repli des taux longs qui se poursuit, la situation pourrait s'améliorer au niveau des small cap, au niveau des petites entreprises. Mais c'est vrai que les signaux qu'on a au niveau des PME aujourd'hui aux États-Unis, qui sont, rappelons-le, des grands pourvoyeurs d'emplois, ne sont pas très bons et ça devrait contribuer, ça également, au ralentissement de l'emploi et de la consommation dont vous avez parlé sur les prochains mois.
Et en même temps, ça serait une bonne nouvelle pour l'emploi parce que les petits patrons, tout est relatif. Eh bien, ont le moral, ils vont se remettre à recruter. Donc, il faut trouver l'équilibre pour ne pas mettre l'économie américaine en surchauffe.
Voilà, donc Il y a des décalages importants. Aujourd'hui, le pessimisme, je dirais, dans les PME devrait se traduire au niveau de l'emploi par des chiffres un peu plus médiocres dans les mois qui viennent. Mais ensuite, effectivement, si les taux longs rebaissent, si la Fed baisse les taux, on verra une amélioration plus tard cette année à ce niveau-là.
Pour clôturer cet entretien, un dernier mot quand même sur l'allocation. Comment ça se passe aujourd'hui chez Generali Investment ?
Alors, en l'occurrence, nous aimons l'idée de repondérer la duration, de mettre de la duration dans les portefeuilles pour bénéficier de ce repli des taux longs. Je crois que c'est une vue assez consensuelle cette année que les taux longs allaient baisser. Cette vue a été punie très largement sur les 3-4 premiers mois de l'année. Là, aujourd'hui, sur les niveaux actuels, il nous semble que ça fait du sens. On continue à bien aimer la classe d'actifs crédit investment grade qui offre un couple rendement risque qui nous semble bon. Et sur les actifs plus risqués, les actions, le high yield, Après la bonne correction, la hausse récente qu'on a connue, on est un peu plus prudent, assez neutre, mais quand même positif sur le reste de l'année.
Donc fonds à échéance, hein, typiquement, hein, en termes de produits, d'investissement sur les taux. Et puis après, en termes de zones géographiques, on voit que les résultats des résultats d'entreprises aux États-Unis sont beaucoup plus solides en termes de croissance qu'en Europe. Est-ce que c'est le temps également de rejouer la Chine, sachant qu'il y a peut-être un début là qui s'amorce sur les indices actions en Asie?
Oui, alors bon, la Chine, il y a toujours le risque géopolitique qui est important et qui va perdurer à l'approche des élections américaines. Mais en effet, le marché chinois est en termes de valorisation relativement attractif. Donc là, on peut y aller de façon quand même assez prudente. De façon générale, les marchés émergents, on pense à l'Inde, par exemple, également, offrent des plutôt bonnes perspectives. États-Unis, Europe, tactiquement, en effet, on serait plutôt favorable sur l'Europe, puisqu'on voit au niveau économique, je dirais, un certain croisement. L'Europe a été très longtemps très décevante, et là, l'économie européenne commence enfin à sortir de l'ornière, alors qu'aux États-Unis, comme je l'ai dit, on sent une certaine fatigue. Donc, plutôt une petite préférence pour le marché européen, tactiquement, en tout cas.
Très clair. Merci beaucoup en tout cas Vincent Chaigneux de nous avoir accompagné aujourd'hui. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. 17h24, dans 11 minutes précisément, ça sera le fixing à la Bourse de Paris. Très belle séance en cours pour le CAC 40 à 8140 points. Tout de suite, on va rentrer en détail dans cette séance.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Avec Franck Morel qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Franck, président de Zone Bourse. Dans un instant, c'est Thibaut François également qui nous accompagnera, cofondateur et associé de Fastea Capital. Merci donc de nous accompagner en ce 8 mai, Franck Morel, avec bon un CAC 40 qui est quasiment sur des records historiques à 8140 points, avec pas mal de sociétés qui ont dévoilé leurs résultats. Dans un instant, on parlera de Alstom, AB InBev, BMW ou encore Ruby. Mais revenons quand même sur les résultats des 7 magnifiques, à commencer notamment par Apple, Franck, qui a quand même annoncé un programme de rachat d'actions de plus de 110 milliards de dollars, c'était jeudi.
Oui, effectivement, Apple qui a très bien publié, qui annonce des rachats d'actions, donc ça, le marché aime, ça a été immédiatement apprécié par le marché, puisque la société est revenue proche de ses plus historiques. Alors, il faut bien admettre que depuis bientôt un an, le Apple fait du surplace. Ça correspond aussi un petit peu à l'évolution de son chiffre d'affaires. C'était une société de croissance pendant de nombreuses années, mais on arrive un peu sur une phase de maturité avec des segments comme le segment des iPads qui est en repli, le segment de la vente des iPhones qui est très important, qui est en repli, les services qui sont en très forte progression. Mais au final, vous avez un chiffre d'affaires qui stagne autour des 400 milliards de dollars et une rentabilité très 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 importante. Hein. La société fait partie des plus profitables du marché avec 27% de résultats nets. Donc il y a pas de souci, mais on cherche des relais de croissance et pour le moment, l'action fait du surplace tout comme son chiffre d'affaires en se maintenant proche de ses records historiques. Donc une des clés, ce sera la relance des ventes d'iPad qui représente à peu près 15% des revenus et aujourd'hui, la société présente son nouvel iPad Pro. Il est mieux, il est nouveau, il fait plus de choses. Donc, à voir si effectivement les ventes suivent. En tout cas, pour le moment, Apple, on n'a pas grand-chose à perdre, pas grand-chose à gagner. On est en phase de consolidation en attendant un relais de croissance qui pourrait venir par de l'innovation, on l'espère. Et surtout suivre de près les ventes d'iPhone en Chine où ce serait mieux que la société garde ses parts de marché alors qu'elle est attaquée un peu de toutes parts, notamment par les nouveaux téléphones Xiaomi.
Et voilà donc pour ce titre Apple qui perd 0,2% aujourd'hui à 182 dollars et qui perd désormais un peu plus de 5% depuis le début de l'année à contre-tendance aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parle des valeurs américaines, continuons Franck Morel avec notamment Tesla. Alors là, décidément, c'est toujours un feuilleton en bourse Tesla. On en parlait encore hier avec des ventes qui baissaient en Chine, avec des résultats la semaine dernière où son patron Elon Musk avait essayé de noyer le poisson en annonçant un nouveau modèle, une citadine. C'est compliqué à suivre hein, quand même en termes de news flow Tesla.
Oui, c'est même tellement compliqué à suivre qu'il faut être extrêmement prudent. À notre sens, on est plutôt vendeur sur le titre. On a été acheteur pendant plusieurs mois. Ça s'est très bien passé. On a pris nos bénéfices. Et là, on pense qu'en fait, la stratégie dans laquelle s'est engagé Tesla, qui est d'essayer d'asphyxier ses concurrents en les attaquant par les prix, et essentiellement les prix, sans forcément renouveler de manière importante les gammes, et c'est une stratégie qui coûte cher en termes de marge, et donc vous avez un chiffre d'affaires qui croît mais des résultats qui baissent, avec une concurrence qui s'intensifie, donc il est aussi possible que les ventes ne suivent pas, et auquel cas on aurait un double effet ciseau avec des ventes en repli et des marges en repli. La société qui se paye en 560 milliards de dollars, c'est-à-dire en gros 5 à 6 fois son chiffre d'affaires et 70 fois, entre 80 et 60 fois ses profits, vous n'avez pas de marge pour les déceptions. Donc on pense qu'il y a, plus à perdre qu'à gagner sur Tesla et qu'il faut être extrêmement prudent. Prudence sur Tesla.
Prudence sur Tesla avec un titre qui recule encore aujourd'hui de 1,8% à 174 dollars, moins 30% depuis le début de l'année. Une dernière valeur quand même aux États-Unis et puis ensuite on parlera des valeurs européennes. Franck Morel, ça concerne le dossier Disney qui a perdu 10% hier. Alors les parcs, ça cartonne, mais par contre la plateforme de streaming Disney Plus inquiète les investisseurs.
Alors en fait, Walt Disney, historiquement, c'est une très belle société avec une croissance relativement faible, mais une croissance toute chaque année dans des proportions de 5 à 7%, avec une rentabilité très importante. Et puis, il y a quelques années, la société a décidé de se lancer dans le streaming. Elle a saccagé, j'ai envie de dire, son compte de résultat, puisque ses marges, qui étaient historiquement relativement élevées autour des 20-25%, se sont effondrées terminer actuellement vers des 3-4-5%, 2%, 2,6% pour l'année dernière et on vise 4-5% cette année. Donc en gros, la rentabilité a été divisée en pourcentage, a été fortement réduite et divisée par 4. Pourquoi ? Parce que la société engloutit des sommes, une énergie considérable dans la conquête des parts de marché du streaming et donc se retrouve confrontée à Netflix notamment, qui est le leader, qui est le seul d'ailleurs à gagner de l'argent. Vous avez toute une batterie d'acteurs, Disney en premier lieu, qui ont décidé de pivoter leur activité pour avoir une croissance de chiffre d'affaires beaucoup plus importante, mais là encore au détriment des marges. Et donc tout ça se concrétise par une baisse importante des cours, et puis la publication d'hier a été relativement positive, puisque pour une fois, et c'est la première fois, le résultat était positif dans le streaming et donc dans ce pivotage stratégique. Néanmoins, les perspectives ont été abaissées et donc vous avez une société qui gagne 3 à 4 fois, ce qui est 3 fois moins d'argent qu'elle gagnait il y a 3-4 ans. Et donc vous avez devant vous plus de risques que de performances, puisque la société se paie entre 25 et 30 fois les résultats attendus pour cette année et l'année prochaine.
Et après avoir perdu 10% hier, Disney remonte péniblement de 0,8%. Franck Morel, vous restez avec nous. On a Thibaut François qui nous a rejoint, cofondateur et associé de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Merci Bonjour. De répondre à l'appel de BFM Business. Bon, dans un instant, le CAC 40 va clôturer à 100 points de ses niveaux historiques ou presque. CAC 40 GR qui est sur des records historiques. Vous êtes à l'aise avec les niveaux de marché actuels à Paris?
Bon, on est à l'aise parce que les publications sont bonnes depuis le début d'année. Le premier trimestre a été plutôt bon d'un point de vue général. Les objectifs ont été confirmés pour l'année 2024, donc tout ça c'est plutôt de bonne augure. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une grosse rotation sectorielle depuis quelques semaines. Le marché est embarqué à la hausse par les valeurs de luxe depuis quelques années. Et puis là, on sent bien qu'il y a une rotation. Donc le luxe est un petit peu moins fort, donc c'est toujours en hausse depuis des années. Mais par contre, on a des secteurs qui commencent à surperformer. C'est vrai que la hausse des taux a plutôt bénéficié, notamment au secteur de l'assurance et au secteur bancaire. Et on se retrouve aujourd'hui avec un secteur bancaire et un secteur de l'assurance qui commence à tirer un petit peu le CAC 40, qui commence à surperformer le CAC 40. faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc on a un relais de croissance de certaines valeurs qui est plutôt intéressant et qui nous permet d'avoir un CAC dividende réinvesti qui est au plus haut aujourd'hui. Et on est plutôt à l'aise avec ce niveau-là et on pense que ça va continuer plutôt à monter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
8137 points pour le CAC 40 qui est en hausse de 0,8%. Vous avez la bourse d'Amsterdam qui est sur des plus hauts historiques. Quand à Wall Street, eh bien, c'est un peu plus mitigé avec un Nasdaq qui cède 0,2% quand le Dow Jones de son côté prend 0,1%. Franck Morel, Thibaut François, je vous propose de rester avec nous. On fait une très courte pause, ça sera le fixing à la Bourse de Paris et puis ensuite on abordera les nombreuses valeurs qui font l'actualité aujourd'hui. AB InBev qui est en forte hausse à Bruxelles après avoir publié ses résultats, c'est la maison mère de Lève. Vous avez Alstom qui gagne plus de 8% désormais après avoir publié ses résultats et son plan de refinancement. Vous avez BMW à l'inverse qui est en baisse à Francfort après la publication de ses résultats et puis Ruby également qui est en baisse après avoir fait un point d'étape sur sa stratégie avec un aspect spéculatif, on en parlait tout à l'heure, qui est très fort sur ce titre Ruby depuis l'arrivée de Vincent Bolloré. Très courte pause, on se retrouve dans un instant à la clôture, à tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
17h36, c'est le fixing à la Bourse de Paris, la Bourse de Paris qui vient de clôturer dans le vert sans plus tarder. On rejoint Aude Kersulec. Rebonjour Aude, merci de nous accompagner avec un CAC 40 qui est au-delà des 8100 points, 8131 points ce soir au fixing.
Oui, pour la quatrième séance consécutive de hausse, ça se passe bien depuis ce début de semaine. Et ce soir, on monte donc de 0,69%, 8131 points, vous l'avez dit. D'ailleurs, le CAC 40 qui est un petit peu plus élevé que les autres indices européens, puisque le DAX monte de 0,37%. À Londres, on monte aussi de 0,5%. Et puis finalement, le Dow Jones et le S&P qui sont maintenant allés tout proches, enfin dans le vert ou alors à l'équilibre, et le Nasdaq qui est dans le rouge. On s'en sort plutôt bien. Alors qu'est-ce qui a marché à Paris? Schneider Electric qui monte de plus de 2,2%, une valeur qui a atteint d'ailleurs son plus haut historique, c'était à 227 euros, on est à 226,40 euros ce soir, devant Veolia ou encore AXA. AXA qui est monté sur l'annonce de son relèvement de rachat d'actions, plus 200 millions d'euros d'actions seront rachetées. Ce qui monte le montant du rachat d'actions à 1,8 milliard plus 2%. Donc pour la valeur ce soir, en revanche en baisse, ST Microelectronics, Stellantis, encore l'automobile du mauvais côté du tableau, moins 1,9% pour Stellantis à Paris, moins 3% finalement pour BMW à Francfort qui annonçait ses résultats trimestriels aujourd'hui. Puis sur le SBF 120, la très forte performance du jour, c'est Alstom. Après là, ses résultats annuel, c'est du rouge et puis c'est une augmentation de capital, mais finalement tout ça soulage un petit peu les investisseurs qui ont une vue sur second semestre qui s'est mieux passé que prévu et qui donne donc de meilleures perspectives pour la suite. On est à 17,11 € ce soir pour Alstom, alors que Ruby au contraire recule de 4% après un recul du chiffre d'affaires, mais malgré une confirmation des prévisions sur l'année, on est à 31,14 € ce soir. Voilà donc le CAC 40 qui clôture en hausse, dans un volume d'affaires relativement limité, c'est un petit peu normal. Cette semaine, peu d'opérateurs sont présents, on est en dessous des 3 milliards d'euros d'échanges sur le CAC 40 et on monte donc de 0,69%, Étienne.
Merci beaucoup, Aude Kersulec qui nous accompagnait depuis la Bourse de Paris et donc cette quatrième séance dans le vert, CAC 40 au-delà des 8100 points à 8131 points. 17h39, tout de suite on refait la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
Et pour refaire cette séance, c'est Franck Morel qui est toujours avec nous en ligne par téléphone, président de Zone Bourse. Merci Franck de répondre à l'appel de BFM Business. Il y a quelques instants, on parlait des valeurs américaines qui font l'actualité en ce moment, Apple, Disney ou encore Tesla. Bon, aujourd'hui, la valeur qui fait l'actualité, bien sûr, c'est Alstom qui a décidé de publier ses résultats un 8 mai, assez original. Bon, ça leur réussit, puisque le titre est en forte hausse, plus 9,3% pour ce titre Alstom. C'est mérité ou pas ce plus 9%, Franck Morel?
Alors, c'est un plus 9%, sachant que le cours a été divisé par près de 3 en l'espace de 3 ans. Donc, plus 9%, c'est effectivement relativement, on va dire, rassurant, et ça veut dire que les informations sont a priori positives et bien interprétées par le marché. Ces informations étant, qu'au niveau financier, au niveau opérationnel, ça reste toujours très compliqué chez Alstom, hein, qui figure parmi les leaders mondiaux de tout ce qui est transport ferroviaire. Mais bien qu'en étant le leader mondial, et bien vous avez des difficultés d'exécution qui sont notamment liées au fait que la société a racheté Bombardier en 2021. Et depuis qu'elle a racheté le Canadien Bombardier, eh bien, vous avez des problèmes d'exécution et de marge qui sont réguliers et quasi permanents. La société a enchaîné les profit warnings et les publications en dessous des attentes. D'ailleurs, on aurait pu craindre qu'avec cette publication un jour férié, ce soit de mauvais augure. Manifestement, donc, c'est pas le cas. La publication en elle-même est et conforme, on va dire. Ce qui est surtout important, c'est le plan de désendettement, puisque la société cherche à se désendetter, hein. Elle a à peu près 3 milliards de dettes, sachant que ça fait 3 exercices qu'elle perd de l'argent en fin d'année. Donc, il y avait une urgence à régler les problèmes de dettes qui peuvent se faire par le biais d'une augmentation de capital. Donc, c'est ces informations qu'on a eues aujourd'hui. Donc, la société souhaite se désendetter par le biais d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros, par le biais d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros. Et puis, elle souhaite toujours faire des cessions d'actifs pour environ 700 millions d'euros. Et donc, ça permettrait à la société de réduire considérablement son endettement et donc d'éliminer les risques de dilution supplémentaire. Et donc, voilà, c'est ces informations qui sont bien interprétées par le marché. Après, la société a tellement déçu depuis tellement de publications trimestrielles ou annuelles, où on a des taux de surprise qui sont systématiquement négatifs et complètement à côté des attentes des analystes, qu'on attendra clairement d'avoir deux ou trois bons trimestres avant de se réintéresser au dossier qui, quand bien même la thématique est porteuse et le positionnement de la société idéal, c'est pas pour autant qu'on arrive à exécuter comme il faut, et donc on attendra d'être rassuré sur ce point avant de s'intéresser au dossier.
Et donc, malgré la hausse de 9% à 17,11€, vous n'accompagnez pas le mouvement, hein. D'ailleurs, on a posé la question à nos auditeurs téléspectateurs sur Twitter. Faudra-t-il participer à cette augmentation de capital? Et la réponse était non à quasiment 60% pour ce titre Alstom. Et pas mal de débouclements de positions short ont également eu lieu aujourd'hui. Stéphane Sauduteil nous rejoint, trader pour compte propre. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour.
En effet, c'est l'un des titres les plus shortés de la cote. Donc, lors de nouvelles comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un côté très spéculatif.
Oui, ça reste un dossier excessivement spéculatif. C'est vrai que on avait mangé vraiment notre pain noir entre juillet 2023 et décembre 2023. On avait perdu 60%. Ça va quand même mieux depuis le débordement de 12,50. On est à quasiment à 17 euros. Je pense qu'on peut reprendre la moitié du terrain perdu, c'est-à-dire remonter sur les 20 euros. Après, comme le disait Franck, je pense qu'il faudra attendre quelques trimestres, hein, pour voir si les résultats se confirment. Mais bon, avec un petit peu d'espoir, je pense qu'on peut acheter un sur repli le titre, hein, entre 15,50 et 16 pour viser peut-être 20 euros, pas beaucoup plus pour l'instant, en attendant de voir un petit peu si la situation vraiment confirme son amélioration.
Et donc voilà pour ce dossier Alstom qui, on le rappelle, est sorti du CAC 40 l'année dernière. Franck Morel, à l'inverse, ça se passe beaucoup mieux pour AB InBev, c'est la maison mère notamment de l'EF, titre qui est coté à Bruxelles, qui a fait un point d'étape sur ses résultats et visiblement ils ont réussi à rassurer les investisseurs.
Oui, effectivement. Alors, AB InBev, ce n'est autre que le premier brasseur mondial, c'est le leader mondial de la bière. Donc, vous avez parlé de l'EF, mais ils ont aussi Stella Artois ou Budweiser. Donc, ils ont publié leur chiffre d'affaires pour le premier trimestre, qui est ressorti à 14,5 milliards d'euros. Le marché attendait 14,3, donc on va considérer que c'est conforme. La bonne surprise est venue au niveau du résultat net, puisque la société a publié un résultat net de 1,09 milliard quand le marché attendait 0,94. Donc on est 15% au-dessus des attentes en termes de rentabilité. Donc la surprise vient des marges qui sont nettement meilleures qu'attendues, ce qui explique la hausse de ce jour de près de 4%. Donc en fait, on observe une baisse des volumes. Il faut savoir que les ventes d'alcool sont en plein chamboulement depuis, on va dire, 5 à 10 ans, avec des tendances historiques qui s'inversent. Par exemple, vous avez des ventes de vin qui sont en forte baisse, vous avez les ventes de bière qui sont en baisse, moindre, mais en baisse tout de même. Et puis un marché des spiritueux qui, lui, est en très forte croissance, mais qui représente encore qu'une petite partie, est tirée plus particulièrement par la tequila. Donc, quand vous êtes à Bainbev et que vous vendez de la bière, vous subissez, et que vous êtes le leader mondial, vous subissez cette baisse des volumes qui a été encore confirmée aujourd'hui dans cette publication. Donc, en gros, on vend moins de volume de bière. On les vend avec plus de marge, donc vous avez un chiffre d'affaires qui est instable grâce aussi à des prix qui ont été augmentés, et donc à la fin vous avez gagné plus d'argent qu'escompté et vous êtes rentable, mais vous avez des perspectives qui sont pas non plus très importantes. Alors c'est l'avantage d'ailleurs de cette industrie, c'est que vous êtes sur une industrie qui est peu cyclique et donc avec une visibilité très forte. Donc, il faut que le marché, il faut que la société se batte contre les tendances de long terme, ce qui pourrait se faire notamment par le biais d'une poursuite d'une stratégie de croissance externe. En tout cas, la société se paye aujourd'hui 15 fois les résultats attendus. Donc, on peut s'intéresser au titre pour son caractère défensif et surtout défensif.
Et ce titre qui prend plus de 4% ce soir à Bruxelles, valeur importante en Europe, c'est plus de 100 milliards de capitalisation boursière AB InBev. Franck Morel, autre valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est BMW qui confirme la tendance. On rentre dans le dur pour les constructeurs automobiles en Europe et surtout pour les constructeurs allemands qui, décidément, en l'espace d'une semaine, ont déçu jour après jour en termes de publication.
Effectivement, la publication a été légèrement inférieure en termes de marge. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est conforme. En termes de marge, on est en dessous des attentes. Le marché attendait, en gros, 9% de marge opérationnelle. Elle est sortie 9,2%. Elle est sortie à 8,8%. Donc, on est légèrement en dessous de ce qu'attendait le marché, ce qui explique le repli d'aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, on est conforme avec ce qui était attendu par le marché. Et donc, cette surprise légèrement négative du côté des marges vient du fait qu'il y a eu des coûts de production qui étaient plus élevés qu'attendus, notamment liés à des problématiques liées à l'inflation. Et puis, vous avez aussi une part des ventes qui sont de plus en plus électriques et où les marges sont moins importantes. Et donc, ce poids des ventes électriques et l'augmentation de la proportion des ventes électriques sur le chiffre d'affaires a un impact légèrement négatif sur les marges. Il faut prendre des parts de marché, il faut aller vite, ça coûte plus cher que prévu. Mais voilà, donc la société, c'est le leader, l'unique pure player de la vente de voitures haut de gamme. Puisque si vous voulez investir dans la voiture de gamme, vous avez pas 36 véhicules, vous allez avoir Ferrari ou BMW. Sinon, vous allez vous retrouver avec une batterie de marque. Et donc là, vous êtes sur un positionnement pure player haut de gamme voiture. Et ça se paye 6 fois les résultats. Vous avez 5% de rendement. On est définitivement dans le secteur auto qui est des valorisations à la casse. Néanmoins, les perspectives sont stables. En l'état, les analystes attendent pour les trois prochaines années une stabilité quasi du chiffre d'affaires et du résultat. Donc là encore, pas grand-chose à gagner ou à perdre, si ce n'est les 5% de rendement chaque année, sachant que la société, pour le coup, est extrêmement saine, puisque là, elle a une situation de cash qui est largement positive. Mais on préfère Renault pour son côté recovery, qui se paye la moitié à peu près de ce que se paye BMW pour des ratios similaires.
Donc Renault, plutôt à choisir dans le secteur automobile, et ce titre BMW qui perd quasiment 4% ce soir à Francfort. Stéphane Sauduteil, parmi les valeurs graphiquement qui ont retenu votre attention, AXA, Schneider Electric, s'il faut en choisir une des deux, laquelle mérite un coup d'œil ce soir ?
Pour la volatilité, Schneider, hein, bien entendu, puisqu'on a des parcours un peu similaires dans l'évolution graphique, mais en pourcentage, Schneider est beaucoup plus puissant, en fait, hein. On a gagné 68% depuis le 23 octobre, 28% pour AXA depuis fin octobre. Donc, on a une force relative bien supérieure sur Schneider. Je pense qu'on a débordé de nouveau une petite résistance autour des 219 € qui était l'ancien point haut. On est à 226-27. Je pense qu'il y a encore un potentiel sur 234 sur Schneider, voire même peut-être un petit peu plus haut. Donc je continuerai à faire confiance plutôt à Schneider et un petit peu moins à AXA.
Schneider Electric qui est sur des records historiques ce soir, qui gagne un peu plus de 2%. C'est l'une des plus fortes hausses du marché parisien à 226,40 € ce soir au fixing. Dernier mot avant de conclure cette émission, Franck Morel, président de Zone Bourse, sur Ruby ou peut-être sur une valeur, une pépite que vous avez envie de mettre en avant à l'antenne ce soir.
Alors je vais opter pour la pépite, je pense que ça intéressera plus de monde. Donc je vais me mouiller sur Lyft. Lyft, c'est le concurrent de Uber aux États-Unis. C'est le challenger, hein, puisque Uber est l'archi-leader et est positionné sur tout ce qui est livraison, sur les taxis, etc. Alors que Lyft est un pur player de tout ce qui est mobilité et donc taxi. Et bien Lyft se paye aujourd'hui 2 à 3 fois moins bien qu'un Uber en termes de multiples de résultats ou de valeur d'entreprise. Elle a publié aujourd'hui une perte, mais qui est nettement moins importante que prévu. Et en fait, c'est une situation intéressante, puisque la société est une société de très forte croissance. Hein, elle faisait 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2019 et on est quasiment à 5,3 en 2024. Donc, elle a plus de doubler en 3 ans, en 4 ans. Et donc, la rentabilité historiquement est négative. La société perd de l'argent chaque année, sauf que ce niveau de perte est en train de s'amoindrir à vue d'œil et on flirte désormais avec l'équilibre. Équilibre qui devrait être atteint cet exercice, voire l'exercice prochain. Et dès que ce sera le cas, elle aura des multiples de valorisation en termes de, basés sur sa rentabilité, qui sont aujourd'hui pas du tout ceux qu'on est prêt à payer pour ce genre de situation. Donc, à mon sens, c'est le moment idéal pour investir dans ce genre de société, qui par ailleurs se paye, comme je le disais, deux fois moins que le leader mondial, Uber. Donc, Lyft aux États-Unis, LYFT.
Voilà, valeur que vous pouvez retrouver dans votre portefeuille, hein, c'est bien ça, Franck, hein, portefeuille Zone Bourse.
Effectivement, nous sommes investis dans la société dans le cadre de notre portefeuille US.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir, président de Zone Bourse. Merci également à Stéphane Sauduteil qui nous accompagnait, trader pour compte propre. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, positive avec un CAC 40 qui clôture ce soir sa 4e séance consécutive dans le vert grâce à un gain de 0,7% au-delà des 8100 points, 8131 points du côté de la Bourse d'Amsterdam, record historique, hein, au-delà des 900 points, record historique également pour le CAC 40 avec les dividendes quand la tendance à Wall Street est beaucoup plus hésitante avec une légère remontée de l'obligataire. Vous avez le Dow Jones qui grappille 0,2%, le S&P qui est stable quand le Nasdaq de son côté cède 0,2%. Et donc la valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui à la Bourse de Paris, c'est bien sûr Alstom. Après la publication de ses résultats et donc l'annonce d'un plan de refinancement, la valeur gagne quasiment 9% ce soir à la clôture, au-delà des 17 €. Voilà pour BFM Bourse, pour cette émission du mercredi 8 mai. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci à nos intervenants de nous avoir consacré quelques minutes en ce jour férié et en ce pont du mois de mai. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr Good Evening Business avec Guillaume Paul et le journal de 18h qui reviendra bien sûr en long, en large et en travers sur Alstom, qui est donc la vedette ce soir du SBF 120. Très bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.